Cube Radio.
Germain, savais-tu que de toute l'histoire de podcasts de char, l'épisode le plus écouté et de loin est intitulé « 10 modèles qui coûtent beaucoup trop cher d'essence ».
Et pourtant, on enregistrait ça en toute fin d'année 2021, alors qu'à ce moment, le litre d'essence nous paraissait être cher, mais comparativement au prix actuel, c'était carrément une aubaine.
C'était quoi, 1,30, 1,40, et la belle époque?
La belle époque, je ne pourrais mieux dire.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher, on le sait, hein, pour toutes les raisons qu'on connaît. On a donc eu l'idée de faire le palmarès des modèles hybrides qui consomment le moins d'essence.
Est-ce que ce sera le podcast de char le moins écouté, forcément?
Là, on se le souhaitera pas, mais c'est sûr que pour l'instant, il n'est pas très, très écouté parce qu'on est en train d'enregistrer, là, Germain.
Bon, on croise les doigts, alors.
On part?
On part! Fred, avant d'y aller avec le numéro 10, petite précision, hein, aujourd'hui on parle de véhicules hybrides, donc on exclut les véhicules qui sont hybrides rechargeables, donc qui peuvent rouler pendant un certain nombre de kilomètres en mode électrique, et on exclut évidemment les véhicules qui seraient 100% électriques. On sait qu'il y a un fort engouement pour les véhicules 100% électriques, mais en même temps, il y a une technologie qui est sur notre marché depuis quoi, 20 ou 25 ans, celle de la technologie hybride.
Exact.
Et qui a été peaufiné avec les années et qui permet de consommer ridiculement peu d'essence.
Ouais, une technologie qui est encore super pertinente pour beaucoup de gens. On le sait, c'est pas tout le monde qui a accès à une borne à la maison.
Salut!
Donc, les véhicules hybrides peuvent être considérés pour les gens qui veulent réduire leur consommation d'essence, mais qui ne peuvent pas se tourner vers un modèle branchable.
Numéro 10!
Numéro 10, c'est le Ford Escape hybride, un méchant VUS, Germain, qui se retrouve dans ce palmarès des véhicules qui consomment peu d'essence.
Un méchant VUS, le seul VUS de ce palmarès, à moins que tu m'obstines pour le numéro 5, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ford Escape, dans sa version hybride, un véhicule qui me plaît énormément, j'en ai parlé sur plusieurs tribunes. Franchement, c'est un véhicule qui brille par sa simplicité, son efficacité, et donc en conduite combinée, c'est-à-dire on a une consommation de 5,8 litres aux 100 km pour un véhicule pratique pour la famille qui est disponible avec les quatre roues motrices. Franchement, c'est pas un véhicule qui est parfait parce que la perfection n'existe pas, mais disons que c'est un véhicule qui répond à des besoins de bien des gens et surtout à ceux qui veulent consommer moins d'essence.
C'est un véhicule qui est livrable avec les quatre roues motrices aussi. Je pense que c'est quand même assez important dans un marché comme le nôtre. C'est pas le cas de tous les modèles qu'on va mentionner aujourd'hui, mais avec l'Escape, ouais. Possibilité d'avoir le rouage intégral.
C'est un véhicule qui est pratique, un véhicule qui est spacieux, le coffre est grand, le dégagement à la deuxième rangée est grand. Moi, j'avais été bien épaté par ce véhicule qui n'a pas que bonne presse, hein, disons-le, mais il a de grandes qualités et elle mérite d'être soulignée.
On passe au numéro 9!
La Lexus ES300H.
C'est ça, un véhicule...
De comptable.
Devrais-je dire banal, une Lexus ES, c'est une berline intermédiaire. On peut dire que c'est l'équivalent chez Lexus de la Toyota Camry. Un véhicule assez grand, assez spacieux, qui est offert en version hybride, qui est la 300H, qui est réussi à faire une consommation combinée ville-route de 5,3 litres aux 100 km. Donc, pour un véhicule de ce gabarit-là, c'est quand même très impressionnant. Puis, assurément que c'est la version à choisir si vous faites partie des 3 personnes au Canada qui se magasinent une Lexus ES. Pas un véhicule particulièrement populaire par les temps qui courent. Hein?
C'est pas très convoité, non.
On n'a pas d'autre chose à dire sur la Lexus.
Rien à dire. Numéro 8!
Numéro 8, la Hyundai Sonata hybride. La Sonata qui est offerte en une multitude de déclinaisons, dont une version hybride. On parle d'une berline intermédiaire, encore une fois, comme la Lexus ES, en gros. Pas mal le même format, mais peut-être un peu moins luxueux.
Oui, en conduite combinée, Ressources naturelles Canada nous annonce une consommation de seulement 5 litres aux 100 km. Je pense qu'il y a de quoi être impressionné par le rendement de cette voiture-là. Je l'avais mise à l'essai l'hiver dernier et franchement, c'était fort agréable. La technologie était au point. Le rendement était très intéressant. Mais là où le bas blesse, hein, comme on dit... c'est que la version hybride n'est offerte que pour une version ultimate. Donc, tu me pardonneras cet horrible accent anglais.
En français, c'est ultimate.
Ultimate, ouais. Oui. Donc, elle n'a rien d'ultime, cette version, je te le confirme. Cher. Elle est très chère. Donc, il faut opter pour une des versions les plus cossues de la Sonata pour avoir droit à la technologie hybride, ce que je trouve dommage. Donc, il faut minimalement payer un peu plus de 43 000 $ pour obtenir une version hybride de la Sonata. Et c'est dommage parce que c'est pas parce qu'on veut payer peu à la pompe qu'on a forcément les poches pleines et qu'on veut avoir un équipement des plus complets. Donc, il y a une espèce de paradoxe de ce côté-là, à mon avis. Mais bon, la technologie, elle, est intéressante.
Le véhicule aussi, hein, c'est un véhicule qui est, bon, évidemment... peu convoité, qui est conduit d'ailleurs par les sergents détectives de District 31, je tiens à le dire, une Sonata noire tout le temps pleine de sel.
Ce n'est pas de la convergence, Fred.
Il fallait que j'en parle, mais c'est un véhicule qu'on voit très peu sur nos routes, mais qui se démarque. Quand t'en vois une, tu le sais que c'est une Sonata. Elle ressemble pas à une autre voiture.
J'aimerais faire le point quand même. Dans la dernière année, tu as vendu ton Westphalia, tu as déménagé dans une maison de banlieue de la rive sud de Montréal et tu écoutes un téléroman quotidien à Radio-Canada. Mais où es-tu, Fred? Redonnez-moi mon Fred, s'il vous plaît.
J'ai rendu le gars qui fait des références à District 31.
Est-ce que tu coupes ton gazon en biseau?
Numéro 7!
La Honda Accord hybride.
On est dans le registre des berlines intermédiaires, beaucoup, hein, comme s'il y avait juste ça chez les hybrides.
Ben, en fait, il y a une belle offre, effectivement, dans les berlines intermédiaires avec technologie hybride. Dans le cas de la Accord hybride, on a droit à une consommation équivalente à celle de la Hyundai Sonata, soit de 5 litres aux 100 km. Et toujours en conduite combinée, elle passe à 5,5 litres aux 100 km. Dans le cas des versions Sport et Touring de l'Accord hybride. Voiture que je n'ai pas conduite, ça manque à ma culture,
ah oui.
Je dois l'admettre. J'ai déjà conduit l'Accord, oui, mais pas dans sa version hybride.
C'est assurément, je pense, la version la plus intéressante, encore une fois. Je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les berlines intermédiaires. Là. La version hybride, t'as quand même un bon couple initial grâce au moteur électrique, puis c'est des véhicules qui évidemment consomment beaucoup moins d'essence. Moi, j'adore l'Accord. Je sais pas, il y a des gens qui disent qu'elle est laide. Dès qu'Honda a sorti cette génération-là de l'Accord, je la trouvais magnifique. Je trouve qu'elle vieillit très bien. Je pense que c'est...
En tout cas, elle vieillit, ça, oui.
Pas tant que ça. Si t'es dans une Accord maintenant, c'est quand même encore très bien. Oh. Moi, je préfère l'Accord à la Camry. Puis là, je veux pas vendre de punch, mais...
Numéro 6!
Numéro 6, la Toyota Camry hybride. On est dans le même registre.
T'es un espèce de divulgateur, Fred.
Ouais, ou tu pourrais dire aussi le roi des transitions. Un des deux.
C'est ça, long. Effectivement, consommation de 4,9 litres aux 100 km. Quand on arrive sous le seuil des 5 litres, ça commence à être très, très impressionnant. Ça, c'est le cas de la version LE. Il faut ajouter 200 millilitres d'essence de plus à tous les 100 km dans le cas des versions SE, XLE et XSE. Pour moi, c'est la berline hybride par excellence.
Oui.
On parlait de la Sonata hybride qui n'était offerte que dans la version la plus chère, la plus cossue. C'est pas le cas de l'Accord ni de la Camry et je pense que ça fait partie de leur force.
Exact. Puis la Camry, ben autant au Canada qu'aux États-Unis, c'est de loin la berline intermédiaire la plus vendue. Je pense que ça parle... Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Plus de 300 000 unités aux annuellement aux États-Unis.
Ouais, c'est incroyable. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi les constructeurs s'obstinent à vendre ces modèles-là que personne n'achète.
Ben, aux États-Unis, ils s'obstinent pas fort, c'est très populaire.
Les gens en achètent. Puis au Québec, puis au Canada, on nous ship un peu ce qui est vendu aux États-Unis. Ouais. C'est la grosse portion du marché en Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore ces véhicules-là dans les cours de vos concessionnaires, chers auditeurs. La Camry, je tiens quand même à préciser, Germain, qui est encore équipée avec un moteur V6 aussi.
Oui, tu parlais de la Sonata plutôt, qui avait une gamme très étendue. C'est le cas aussi, là.
Oui, exact. Puis la Camry est également offerte avec un rouage intégral,
oui,
mais pas avec l'hybride.
Oui, donc le mariage parfait, la voiture ultime n'existe pas, c'est-à-dire, bon, voiture ultime, entendons-nous, là, pour la Camry.
Pour un chauffeur de taxi.
La Camry à rouage intégral hybride n'existe pas. Il n'existe pas non plus de version hybride affichable.
Et pourtant, chez Toyota, il y a plusieurs autres modèles qui combinent l'hybridation et le rouage intégral.
Oui.
Donc, je comprends pas trop pourquoi, avec la Camry, c'est pas possible. Je pense au Toyota RAV4, par exemple, au Toyota Venza, qui offre le rouage intégral avec la motorisation.
Le Highlander, même.
Le Highlander. Donc, pourquoi pas avec la Camry? Peut-être que ce sera renouvelé pour la prochaine génération du modèle. Espérons-le, parce que, en tout cas, pour les quatre personnes au Québec qui achètent une Camry, j'exagère, il y en a plus que ça quand même, là. Mais pour les gens qui sont encore intéressés par ce type de modèle-là, ben c'est sûr que le rouage intégral, dans un marché comme le nôtre, c'est très intéressant.
Numéro 5!
Numéro 5, Germain, on parlait de VUS tantôt. Je ne crois pas que c'est un VUS, le Kia Niro.
Est-ce que c'est un multisegment ou même aucun segment, le Niro?
C'est un peu entre deux chaises. Hein. Moi, je le
chaises.
J'aime le comparer à une Golf Sport Wagon.
Ah, c'est plus petit quand même.
Un petit peu plus petit, mais ça a vraiment le look et le feel, je trouve, d'une familiale. La nouvelle génération qui s'en vient en 2023 a des airs de VUS un petit peu plus que le modèle qui s'en vient. Tout ça pour dire, Germain, que c'est un véhicule qui se décline en version hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Aujourd'hui, on s'attarde évidemment à la version hybride seulement qui consomme en conduite combinée ville-route, 4,6 litres au 100 km.
Hey, c'est pas gros.
C'est vraiment bon. Puis je l'ai déjà conduit, la Niro hybride. Puis
c'est très efficace.
C'est pas exagéré, ces chiffres-là. C'est un chiffre que tu peux quand même facilement réaliser. Tu peux faire en bas du 5 litres au 100 dans la vraie vie. Puis c'est un véhicule qui a un format intéressant. Tu sais ça, t'as le look d'une familiale quand même, avec un bon espace de chargement. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui gagne à être connu. Encore aujourd'hui, il y a peu de gens qui pensent au Niro quand il y a le temps de se magasiner un véhicule. Puis
c'est pas un véhicule qui est mis de l'avant par le manufacturier. Forcément, on a misé là sur la version électrique. Bon, en même temps que les Soul EV et Kona électrique aussi. Mais le Kia Niro dans sa version hybride, effectivement, on n'a pas mis beaucoup d'énergie sur ce véhicule. Là, qui sera renouvelé pour 2023. J'ai bien hâte de voir quelle sera l'offre de la gamme pour cette nouvelle génération du Niro, qui effectivement, comme tu le mentionnais, a des allures un peu plus là de VUS,
exact,
plutôt que de petite familiale urbaine.
Réalisateur qui s'amuse à regarder des photos pendant qu'on parle. C'est son métier, après tout, regarder des photos sur Google.
Et il regarde des photos de Niro et il est tombé sur Robert.
Robert de Niro. Pourquoi Kia l'a pas embauché pour faire la pub du Niro? On passe au numéro 4!
C'est la précurseur des hybrides.
Quand tu dis hybride, tu penses à ce modèle-là.
Oui, la Honda Insight. Non. La Toyota Prius.
Absolument.
Frère. Donc, au numéro 4, on retrouve effectivement un des précurseurs dans le domaine des hybrides, voiture qui est arrivée au tournant des années 2000, qui était déjà, ma foi, un véhicule assez efficace et qui a été peaufiné petit à petit au fil du temps. On a rajouté une version à quatre roues motrices. On a rajouté une version affichable aussi au fil du temps.
La Prius Prime.
La Prius Prime, effectivement. Et une chose demeure, elle continue d'avoir l'air d'un vaisseau spatial.
Chaque génération, Toyota s'est toujours surpassée avec un look toujours plus weird. Et on finit quand même tout le temps par s'habituer.
Oui, et quand on prend le volant aussi de cette voiture-là, on comprend pourquoi c'est une voiture qui a sa raison d'être.
Ben oui.
Bon, c'est très efficace sur le plan de la consommation, mais ça demeure une voiture, bon, relativement maniable, relativement spacieuse. La visibilité à bord est excellente aussi. Son hayon est relativement pratique également. Bref, une voiture qui jouit de beaucoup de qualité et d'une très grande fiabilité.
Absolument.
Hein? Je pense que ça fait partie de ses grands atouts. Donc, ça mérite d'être souligné.
Après plus de 20 ans d'existence, là, la Prius a habilement prouvé que la technologie hybride n'est pas nécessairement problématique. En fait, souvent, c'est des véhicules qui sont très, très fiables.
Qui peuvent parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans souci.
Ouais.
Donc,
Mot tantôt, tu parlais de la Inside, Germain, oui. De Honda. Faut quand même le mentionner, là. La Inside puis la Prius au tournant des années 2000 sont arrivées sur notre marché pas mal en même temps.
Ouais.
La Inside est arrivée un petit peu en premier, ce qui fait que ça a vraiment été le premier modèle hybride commercialisé chez nous. Puis vous verrez pas la Honda Inside dans ce palmarès-là parce qu'Honda a décidé de tirer la ploie en bon français sur ce modèle-là l'année dernière.
Même si c'était un véhicule qui n'était pas rechargeable, on a tiré la ploie.
C'est ça. Pour te dire à quel point il n'en voulait plus. Là.
Ouais.
Mais on a eu 3 générations de l'Insight au fil des années. Ça a été 3 flops monumentales.
Ouais.
Donc, pendant ce temps-là, monumentaux, merci, je m'excuse, j'ai mal accordé mon adjectif. Pendant ce temps-là, ben Toyota n'a jamais cessé la commercialisation de la Prius. Puis comme je le disais, tu penses à hybride, tu penses à Toyota. Puis même, au-delà de ça, quand tu demandes aux gens, il y a des sondages qui existent, on demande aux gens à quelle marque vous associez le plus les véhicules électriques. Les gens disent Toyota.
Parce qu'on va associer électrique et électrique.
On arrive là avec un premier véhicule. Alors, c'est de dire à quel point l'impact a été grand de la Prius sur l'image de la marque Toyota dans les dernières décennies.
4,5 litres au 100 km avant de l'oublier.
C'est excellent. C'est très, très bon. Dernière question. Est-ce que tu considères la Prius comme une berline compacte ou intermédiaire?
Ah, c'est une excellente question. On parlait tout à l'heure là du Niro qui était un peu à cheval sur tout. C'est une excellente question dans le cas de la Prius.
Tu dirais
c'est
donc que la Prius fait elle aussi de l'équitation?
Elle fait elle aussi de l'équitation. Je la place directement entre la Corolla hybride et la Camry hybride. Bon, en termes de volume de cargo, en termes d'espace à l'intérieur, on est beaucoup plus proche de la Camry.
Ouais, je pense qu'officiellement, c'est considéré comme une intermédiaire.
Ouais, mais en même temps, c'est... Il y a quand même une marge là entre une Camry puis une Prius. Alors ouais. Voilà mon petit malaise et désolé de ne pas pouvoir répondre plus clairement.
Germain, on a une question du réalisateur!
J'écoute.
Je vais essayer de paraphraser ce que je viens d'entendre dans mon oreille droite. Étant donné l'expertise et la longue carrière de la Toyota Prius qui dure depuis plus de 20 ans, est-ce que ça peut être pertinent de se tourner vers un modèle d'occasion de la Prius si on veut se procurer un véhicule hybride à bas prix?
La réponse est toute simple.
Oui!
Oui, en fait, ben on le mentionnait, c'est un véhicule qui jouit d'une très grande fiabilité,
ouais.
Qui a aucun grand problème connu lié à ce modèle-là. Donc, effectivement, je n'aurais aucune inquiétude à me procurer une Prius d'occasion.
Dans le neuf, les Prius ne se vendent presque plus. En fait, toutes les ventes vont vers la Prius Prime, ouais. Un modèle hybride rechargeable qui peut bénéficier de subventions ouais. À l'achat de véhicules électriques, tandis que c'est pas le cas pour la Prius qui est une hybride régulière. Donc, beaucoup de clients sont portés à aller chercher la Prius Prime parce qu'en comptabilisant les subventions, la différence de prix est minime entre les deux. Donc, on préfère se tourner vers un modèle hybride rechargeable.
Le même phénomène est observé avec l'Escape, malheureusement. Là, donc, il est plus intéressant financièrement d'opter pour un Escape hybride rechargeable ouais. Plutôt que d'un Escape hybride, malgré que ce soit un excellent véhicule. Numéro 3. On en parlait il y a quelques instants. Hein. On reste toujours chez Toyota. Donc, la Corolla hybride monte sur la plus basse marche du podium des voitures hybrides qui consomment le moins de litres d'essence aux 100 km. Donc, en conduite combinée, on est à 4,4 litres aux 100 km. C'est ridiculement peu et on apprécie ça.
Ouais, effectivement, la Corolla qui est arrivée avec une version hybride il y a pas si longtemps, hein, quoi, 2-3 ans à peine.
Ouais, on est arrivé sur le tard, mentionnons-le.
On utilise exactement la même technologie qui loge dans la Prius, donc c'est vraiment deux véhicules qui se font, somme toute, un peu compétition chez Toyota. Je trouve ça drôle, là, comme stratégie.
Oui, je comprends en même temps qu'on veut profiter de la grande réputation de la Corolla, mais en même temps, avec les années, la Prius s'est elle-même bâtie sa propre identité et sa propre réputation. Donc, effectivement, on peut remettre en question la viabilité de ces deux voitures-là. Mais bon, je pense que du côté de Toyota, on avait l'intention de faire mousser les ventes de la gamme Corolla. Hein. On se rappelle qu'il y a une version à haillons qui existe aussi. Donc, toujours dans le but de peut-être éventuellement devenir la voiture la plus vendue au pays. Mais ben, pour l'instant, ça demeure la Civic.
Numéro 2!
La Hyundai Elantra hybride.
Ben oui, Hyundai qui produit une Elantra hybride pour rivaliser justement avec la Toyota Corolla hybride qui était en numéro 3.
Et qui consomme en conduite combinée exactement la même chose que la Corolla hybride, c'est-à-dire 4,4 litres au 100 km. Et rendu là, pour éliminer des dixièmes, ben il faut travailler extrêmement fort. Et je pense qu'on a atteint un certain de seuil qu'on ne pourra plus dépasser.
Donc là, on a placé la Hyundai Elantra hybride en numéro 2 et la Corolla hybride en numéro 3. Mais bref, sont pas mal avec ces coûts.
Oui, c'est une question de consommation en ville et route.
OK, oui, parce que je vois que sur route, on peut aller jusqu'à 4,2 litres au 100 km avec l'Elantra hybride. Donc, c'est encore mieux que ce que fait la Corolla.
Absolument.
Mais deux berlines très similaires, des berlines compactes avec motorisation hybride.
Deux rivales, on ne peut plus direct.
Hyper intéressante aussi, l'Elantra hybride. Je trouve que c'est un véhicule qui... Et des fois dans l'ombre de la Civic puis de la Corolla, mais qui mérite certainement d'être mentionné. Un look qui est peut-être pas pour tous, hein, la nouvelle Elantra.
Effectivement, c'est un peu audacieux, un peu tape à l'œil. Je suis pas certain que ça va bien vieillir, comme c'est le cas malheureusement de bien des véhicules coréens, parce que le cycle de renouvellement est très rapide, hein, ouais, chez les Coréens. Donc, elle va vite devenir dépassée. Et j'ai bien peur que ce modèle ne vieillisse pas très très bien.
On est maintenant au...
Numéro 1, la plus haute
marche. Attends, un peu d'enthousiasme, c'est le premier.
Numéro 1!
La Hyundai, encore une fois, Hyundai, oui, qui se démarque avec l'Ioniq.
Oui, l'Ioniq qui est offerte avec une gamme très étendue aussi. On a l'hybride régulière, on a l'hybride rechargeable et la version électrique. Je ne sais pas trop quelle orientation prendra ce modèle-là qui devient tranquillement pas vite une sous-marque,
Ben oui,
de Hyundai, c'est-à-dire. Mais oui, c'est la Ioniq est en quelque sorte... un précurseur là de l'électrification des transports.
Et c'est l'hybride avec la meilleure consommation d'essence, une cote combinée ville-route de 4 litres au 100 km seulement, c'est excellent,
c'est très dur à battre et toujours selon les données fournies par Ressources naturelles Canada, on peut tomber à 3.9 litres au 100 km sur route.
Wow.
Je ne sais pas quoi faire de plus que lui lever mon chapeau.
Mais tu le disais, Ioniq est en train de devenir une sous-marque. On est arrivé avec l'Ioniq 5, une espèce de... Bon, on appelle ça un VUS, là, mais...
C'est une voiture.
Ouais, c'est une voiture.
Quoi qu'on l'appelle, c'est une voiture.
C'est un véhicule 100% électrique, mentionnons-le. On sait aussi que Hyundai va arriver avec des modèles Ioniq 6, Ioniq 7, qui va être un véhicule utilitaire intermédiaire. Donc, on va vraiment créer une gamme de modèles électriques sous la bannière Ioniq. La Ioniq hybride, dans tout ça, vient perdre un peu son sens. D'après moi, on va tirer sa révérence avant longtemps, puis on va pousser...
Mais elle demeure pertinente.
Ouais, mais on va pousser probablement, oui, les consommateurs vers l'Elantra hybride à ce moment-là. J'ai pas l'impression que c'est un modèle qui va être chez nous encore super longtemps. On a déjà abandonné, en fait, la version 100% électrique de l'Ioniq. Donc, il reste la hybride et l'hybride branchable. Donc, à voir ce que ça va donner. Ce que je vois de tout ça, moi, Germain, c'est qu'il y a encore des véhicules hybrides sur le marché avec une très bonne consommation d'essence qui peuvent être une alternative intéressante aux consommateurs qui n'ont pas encore les ressources ou l'envie, tout simplement, de se procurer un modèle électrique.
Mais qui ont sorti leur calculatrice dans les dernières semaines et qui se rendent compte que le litre d'essence est beaucoup trop cher et que le budget ne balance pas. Alors, c'est peut-être une solution intéressante pour vous.
En terminant, Germain, entre ces 10 modèles dont on vient de faire mention, lequel t'achèterais demain matin?
Ben, je disais avoir une certaine affection pour le Ford Escape hybride, pour l'ensemble de son efficacité et son côté pratique. Mais je pense que le modèle le plus passe-partout demeure la Camry hybride ou même la Prius, okay, bien entendu.
Tu vois, moi, je pense que je pencherais vers un Kia Niro hybride. Ouais.
Pourquoi pas?
Puis je tiens quand même à spécifier aussi que parmi les 10 modèles dont on a fait mention, un véhicule américain, le reste sont toutes des japonaises et des coréennes. Mais où sont les Allemandes?
Mais où sont-elles? Merci d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production Cube Radio.